Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and I got my blackjack gum here and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive! Alive!
Ready to party!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
I'm a man! Well, nobody's perfect.
Qu'est-ce que c'est fait? C'est pas quoi faire!
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Kinds of Kindness, c'est le titre forcément ironique du nouveau film de Yorgos Lanthimos qui annonce pour ce soir un programme particulièrement retors. Retors comme le comte de Monte Cristo qui, victime d'un complot lui-même retors, planifie sa savoureuse revanche sur près de 15 ans. Retors comme le dispositif de Sans un bruit jour 1, préquel de la franchise initiée par John Krasinski et qui veut que le moindre bruit puisse vous coûter la vie. Retors encore comme la dernière comédie de Jean-Christophe Meurice, Les pistolets en plastique, inspirée de l'affaire du non moins retors Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme le plus recherché de France vit peut-être reclus comme un moine, mais pas celui de Le Moine et le Fusil, à moins qu'il se soit exilé au Bhoutan en Asie du Sud pour fuir la police. Rappelons toutefois que sans jugement, il est toujours présumé innocent, comme Jake Gyllenhaal dans la série éponyme signée David et Kelly. Savoir disparaître tout en devenant le centre de l'attention, c'est un talent qu'on lui envie, car aujourd'hui c'est la dernière de l'équipe d'Externuit au micro de Radio Campus Paris. 10 ans durant, nous avons échangé, débattu et critiqué l'actualité ciné sur ces ondes qui sont devenues les nôtres, et pour boucler la boucle, je dirais simplement qu'on s'aime encore comme au jour 1. Seulement voilà venu le temps de passer le flambeau à une nouvelle génération de chroniqueurs, et pour nous de voler de nos propres ailes hors de notre bocal fétiche. Mais pas de panique cher auditeur, la rentrée de RCP sera rimée avec cinéma, et reste bien jusqu'à la fin, on te dira où guetter la suite de nos belles aventures. Externuit, c'est parti pour une dernière. Breaking news. Et le bocal s'écroule autour de nous, c'est peut-être le signe de la fin des temps ou de notre fin à nous. Alban, tu as le box-office de la semaine.
Tout à fait.
Est-ce qu'il est beau comme le temps dehors de ce bocal?
Oui, il est très beau. Alors en première position, on trouve un film dont on a parlé la semaine dernière, Vice Versa, deuxième volet.
Dont on a dit du bien en plus.
Dont on a dit du bien, donc on est très content qu'il fasse 1 934 000 entrées pour sa première semaine.
J'aime que tu dises entrées.
Entrées. Moi, je suis parisien, moi. Donc,
tu te Vincent McKenise.
Ouais, clairement. Non. Bref, alors... en deuxième position, on retrouve, sans surprise, mais quand même un petit truc en plus, qui fait 483 000 entrées pour un cumul à 7 800 000 entrées. Il va bientôt franchir le cap des 8 millions, donc on est quand même... Enfin, c'est quand même hallucinant pour ce petit film. Et en troisième position, on a un film qui a fait, il me semble, beaucoup souffrir, Laurent, Bad Boys, Ride or Die.
Un peu.
Ouais.
C'est mon cerveau qui a souffert.
Qui fait 170 000 entrées cette semaine pour un cumul à 800 000 entrées.
Laurent, toi, tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
Eh ben, c'est un triplé pour Extérieur Nuit cette semaine. Ça commence par Kinds of Kindness, qu'on a découvert à Cannes et dont on vous reparle aujourd'hui, qui est le dernier film de Yorgos Lanthimos, qui fait 740 entrées pour 25 copies, donc une moyenne de 30. On sent qu'il fait beau et chaud, que les gens veulent pas trop aller au cinéma non plus. Il est suivi de relativement près par Sans un bruit, jour 1, dont on, malheureusement on vous parle aussi aujourd'hui, qui fait 622 entrées pour 17 copies, donc une moyenne supérieure de 37. Dieu nous ait en sa sainte garde. Et enfin, en troisième place, un film dont on vous parle aujourd'hui, une troisième place vraiment inattendue pour un film bhoutanais qui s'appelle Le Moine et le Fusil, qui fait 430 entrées pour 11 copies, donc une moyenne de 39. Les fans du Bhoutan, dont nous faisons peut-être partie, on vous dira ça tout à l'heure, ont apprécié.
En 10 ans d'antenne, c'est la première fois qu'on parle d'un film bhoutanais.
En même temps, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma bhoutanais, mais il y a moins d'une dizaine de films.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est une production très très confidentielle. Le perdant de la semaine, c'est un film espagnol, je crois, qui s'appelle Léon, qui s'est senti bien seul.
C'est argentin.
C'est argentin. Eh ben, merde, j'ai mal fait mon travail. Léon qui a dû se sentir bien seul parce qu'il fait 2 entrées pour 1 copie. Donc une moyenne de 2. Voilà, ce qui est pas top. Ça a l'air d'être un film vraiment un peu cheapos, un peu amateur sur des histoires d'une relation entre un fils et sa belle-mère. Donner peut-être une chance au cinéma argentin.
Peut-être qu'il y allait avec sa belle-mère, c'est eux deux les spectateurs de cette unique séance. Le CEFF, le Champs-Élysées Film Festival, vient de se clôturer. Manon, tu nous donnes des petites nouvelles du palmarès.
Yes, alors le jury des longs métrages, il était présidé par Rebecca Zotowski et ils ont, donc en fait à chaque fois c'est un festival de cinéma indépendant américain et français, donc à chaque fois il y a le prix pour la France et pour les films américains. Donc côté long métrage, meilleur long métrage américain, ils ont récompensé Good One d'India Donaldson et celui-là je l'ai vu et c'est vraiment, je suis tout à fait raccord avec ce prix parce que c'est vraiment super. C'est comme un peu une forme de Boyhood, mais dans les forêts américaines. Et en fait, ça se passe sur deux jours, donc c'est pas du tout Boyhood. Mais dans l'ambiance, je trouvais, dans le rapport des parents aux adolescents. Et puis ça parle de la lâcheté paternelle, ça parle de la prédation. C'est vraiment super bien. L'actrice est incroyable, Lily Collias, elle est excellente. Du côté des meilleurs longs métrages français, ils ont choisi de récompenser Diaries from Lebanon de Myriam El Hage, que je n'ai pas vue. Le prix du jury de la meilleure réalisation américaine, c'est pour Nathan Silver pour son film Between the Temples, qui il paraît est vraiment super. Et meilleure réalisation française, c'est pour Caroline Poggi et Jonathan Vinel pour leur film It's the Night, dont on parle beaucoup depuis leur passage à Cannes à la quinzaine, qui c'est un thriller qui mêle romance, queer, jeux vidéo, apocalypse, plein de choses.
Biarritz le week-end dernier.
Tout à fait, ils raflent tout sur leur passage. Je ne sais pas qui a vu le film ici, moi je ne l'ai pas vu. Côté court, c'était Jean-Baptiste Durand qui présidait le jury et eux, ils ont choisi de récompenser du meilleur court-métrage, du grand prix du meilleur court-métrage américain, Merman de Sterling Hampton. Le meilleur court-métrage français a été au Lien du sang de Hakim Atoui et ils ont accordé une mention spéciale à Cortané de Maloussix. Et je crois que c'était la première fois cette année où ils récompensaient également un moyen métrage. Et là, ils en ont récompensé deux ex aequo, c'est Reset de Suleiman Shellfoot et Incident de Bill Morrison. Il y a également un jury presse qui a choisi donc de donner son prix de la critique du meilleur long métrage américain également à Between the Temples de Nathan Silver et le prix de la critique du meilleur long métrage français, c'est à nouveau It's the Night qui l'a reçu.
Je précise parce que du coup, pardon, j'ai pas rebondi. It's the Night, on l'a vu avec Yori au précédent festival de Cannes et on a une interview des deux réalisateurs qui est disponible sur du coup le site.
Bien vu. Et il y a également le public qui peut voter à la fin des projections au Champs-Élysées Film Festival. Et donc, eux, ils ont choisi de remettre leur prix du meilleur long métrage américain à I Saw the TV Glow, qui est un film qui parle d'identité transgenre d'une façon dont personne n'a jamais vu. Bon, parfois, ça peut être un peu opaque, mais c'est génial. Ça parle aussi d'une sitcom et voilà, et toute la mythologie autour des sitcoms et comment ça peut être important dans la construction. Meilleur long métrage français, le public a choisi de donner son prix à Habibi, chanson pour mes amis de Florent Gouélou, qui avait réalisé 3 nuits par semaine avec Pablo Poli. Meilleur court-métrage français, ça va à Sirène Sarah Maléon, de Sarah Maléon. Et le prix du meilleur moyen-métrage indépendant va à un moyen-métrage avec un titre improbable qui s'appelle Voyage de documentation de Madame Anita Conti, d'une réalisatrice qui s'appelle Louise Aymon.
Et ben, voilà. Merci Manon pour ce palmarès très complet. Et avec Yori, on a rencontré Jean-Baptiste Durand qui s'occupe donc des courts-métrages et moyens-métrages de ce Champs-Élysées Film Festival. On vous laisse écouter notre interview.
Bonjour Jean-Baptiste Durand.
Bonjour Yori.
Bonjour Elisabeth.
Qu'est-ce que tu recherches quand tu vois un court-métrage ? Quelle est la première chose que tu cherches à déceler dans un film court ?
Dans un film tout court, hein, quel que soit le format. Je dirais si c'est le cœur qui parle, j'ai envie d'avoir une émotion quelconque. C'est-à-dire qu'il y a une guêpe autour du micro.
Il y a une guêpe autour de nous, c'est ça d'être à l'extérieur sur cette jolie terrasse.
Ouais, ça va. Tant qu'elle ne m'emmerde pas. Je recherche de l'émotion en fait. Après, que ce soit du rire, une émotion intellectuelle, une émotion physique, une émotion. Voilà, que ce soit le ventre, la tête ou le cœur, en tout cas que ça m'impacte d'une certaine manière. Et après, c'est vrai qu'en tant que cinéaste moi-même, j'aime les gestes sincères. Ça, c'est hyper important pour moi de sentir qu'il y a une vraie nécessité quand tu vois un film que c'est habité, qu'il y a un point de vue et ouais, l'idée d'une radicalité, pas forcément plastique, mais d'une radicalité de cœur.
Ouais, du cœur.
Et est-ce que c'est important, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est important de passer par l'exercice du court-métrage avant de réaliser un long-métrage ?
En fait, j'ai du mal avec l'idée du court-métrage...
À différencier vraiment du long
dans Non, c'est même pas ça, dans sa globalité. C'est-à-dire le court-métrage, entre le court-métrage autoproduit, le truc que tu fais en deux jours, le truc que tu écris pendant 4 ans ou 3 ans avant d'avoir des financements, ça n'a juste rien à voir. Donc je pense que c'est hyper important de faire des films. Et évidemment, c'est plutôt court avant de faire du long. Mais même dans tous les systèmes de production, de faire des films un peu plus avec des équipes qui vont... Enfin, de se chercher, en fait. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est beaucoup naviguer dans beaucoup de façons de faire du cinéma différentes.
Et toi, en faisant des cours, et c'est, je rebondis là-dessus, c'est un moment où tu as également rencontré les équipes avec lesquelles tu as continué de travailler, ou c'est un moment où tu as pu explorer aussi différents registres, tester différentes choses avant de passer au long ?
Ça a été un laboratoire sous mille formes différentes. Ça a été un laboratoire esthétique, un laboratoire humain, un laboratoire même... Un miroir, c'est-à-dire comment moi je réagis à telle ou telle situation.
De gestion de plateau,
gestion humaine, gestion des comédiens, gestion esthétique. Est-ce que je fais de l'impro ? Est-ce que je fais des... Moi, j'ai vraiment fait des films à plein de formes différentes, en fait, pour un peu me rencontrer. Et j'ai rencontré mes équipes, je te dirais presque... Pour l'essentiel, en vrai, avant même de faire de réaliser, j'étais technicien. Et il y en a la moitié des équipiers, je les ai rencontrés, j'étais machinot, décorateur.
D'accord, parce qu'en fait, pour rappel, tu as commencé par les Beaux-Arts, et ensuite tu es passé au cinéma d'abord en tant que technicien, en effet, et ensuite tu es passé réalisateur pour réaliser tes propres films.
En parallèle, mais oui, j'ai fait un peu technicien, et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des copains et des copines.
Et justement, alors on va parler de ton premier long métrage Chien de la casse, que nous on avait vu et beaucoup apprécié chez Extérieur Nuit. Et tu parlais d'une nécessité. Alors je trouve que c'est un film qui pour le coup transpire vraiment la sincérité dont tu parles. Et je voulais savoir du coup quelle était la nécessité au départ de ce film. Est-ce que c'était ces deux personnages principaux, cette espèce d'amitié un peu toxique entre ces deux héros, celui qui parle beaucoup, qui fait des logorées, celui qui se tait. Est-ce que c'était raconter cette zone périurbaine, rurale qu'on voit assez peu au cinéma, qu'est-ce qui était à l'origine du geste ?
Comme tu as dit, le geste, il était, la nécessité de faire ce film-là était corrélée presque au fait de faire du cinéma un jour. C'était, si je ne fais pas Chien de la casse, je m'en fous de faire un film pour faire un film. Je n'aurais pas fait de film, certainement. Et la nécessité, elle était, je pense, en numéro un, de raconter la vie la jeunesse de village périurbain. Je pense que c'était vraiment de saisir ça. J'avais l'impression de jamais m'être senti représenté au cinéma, en fait. D'avoir vécu une réalité que j'ai jamais, jamais, jamais vue à l'écran. Ou alors de manière un peu caricaturée. Et du coup, c'était ça. Et évidemment, le geste de... tu parles d'amitié toxique, mais je pense que c'est un... Il n'y a qu'un seul mot en français pour exprimer quelque chose de protéiforme, mais parler d'amour. Et c'est un amour qui prend la forme d'une amitié, mais je parle de l'amour dans son absolu, c'est aimer comment on aime les gens. Donc là, c'est de l'amitié, et après, c'est un amour maladroit, donc qui devient toxique pour la relation. Mais c'est vraiment parler d'amour, donc là, pour le coup, d'amitié.
On a ces deux personnages masculins qui sont donc interprétés par Anthony Bajon et Raphaël Quénard. On a aussi Galatea Bellucci, j'ai toujours peur d'écorcher son nom, mais qui joue le rôle féminin. Et c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que tu arrives effectivement aussi à toucher quelque chose de très sincère chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont... On a l'impression, en tout cas, très proche de ce qu'ils sont dans la vraie vie, tout en étant complètement des personnages. Et du coup, j'étais assez curieuse de savoir le travail que tu as fait avec eux, notamment. Est-ce que à quel moment ils ont été impliqués ? C'est vrai que, par exemple, Raphaël Quénard, on a vraiment l'impression quasiment que les dialogues, c'est lui. Mais en fait, j'imagine que c'est un travail entre vous. Donc, comment ils ont été impliqués ? À quel moment et de quelle manière ?
Alors, les dialogues, c'est même pas entre nous. Les dialogues, c'est moi. Et les personnages, ils ont été impliqués. Je dis c'est moi, c'est-à-dire que, en fait, si un acteur joue bien, on a l'impression que c'est lui qui a écrit ses dialogues. Donc,
c'est le plus beau résultat.
Tant mieux, ça fait plaisir. Mais après, du coup, je remets les choses dans leur contexte.
L'église
c'est un film, l'église au milieu du village. Voilà, c'est l'expression et bienvenue. Non, c'est un film qui a été d'abord hyper écrit. Je tenais vraiment, après avoir justement expérimenté dans les cours, à avoir quelque chose qui respecte les dialogues au maximum, parce que ça fait partie de la dramaturgie sur ce film en l'occurrence.
C'est beaucoup, ça, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est comme en effet beaucoup de scènes, de dialogues entre deux ou trois personnages et qui s'enchaînent comme ça un peu dans une sorte de torpeur où l'histoire va un peu lentement infuser à travers tout le film jusqu'à arriver à la séquence finale.
C'est ça. Donc le scénario a été écrit précisément et ensuite, de manière assez traditionnelle, j'ai fait un casting et ça a été un long processus de trouver les acteurs, et je tenais à avoir vraiment des acteurs qui soient capables d'incarner les personnages avec finesse, avec c'était des phrases assez écrites pour la plupart. C'est quand même un texte, c'est pas si facile à dire, et donc j'ai rencontré Raphaël Quenard qui correspondait merveilleusement au personnage que j'imaginais de Miralles. Mais c'est vraiment un rôle de composition en fait. Raphaël le joue tellement bien qu'on se dit c'est lui dans la vie. Putain, j'espère pas, il est pas du tout, c'est pas du tout un écorché vif. C'est pas quelqu'un de tordu, il a rien de méchant. Miralles, la moitié du film, il parle pas, quand même. Même s'il parle beaucoup au début, on a cette sensation qu'il est volubile, mais en vrai, au bout de 40 minutes, il se tait. Oui. La façon de parler aussi de Miralles, c'est pas celle de Raphaël Quenard, qui est plus fleurie, qui est plus inventive. Miralles, il est plus dans la punchline, Raphaël, il est plus dans la métaphore. Donc, si on regarde un peu attentivement les interviews de Raphaël et le film, c'est pas la même plume. Et après, évidemment, qu'il y a eu des incursions de l'invention un peu des acteurs, notamment de Raphaël, mais c'était une espèce de méthode de travail. On était d'abord au texte, puis on réinvente un tout petit peu, mais sans s'écarter du phrasé du film. Et quand les scènes le nécessitaient, une petite carte blanche et après au montage, je venais rééquilibrer. Mais c'est plus dans chaque scène, elles sont à 80% écrites, et il y a des petites incursions comme d'improvisation. Mais voilà, du coup, ils sont. J'ai l'impression que c'est assez classique finalement, la façon dont. Voilà, j'écris un personnage, je prends un acteur qui a priori me semble correspondre. Après, non, Anthony Bajon, oui, il a une espèce de pudeur, mais c'est absolument pas doc dans la vie. Tu lui dis un truc qui lui va pas, il réagit direct. Galatea, elle peut avoir quelque chose. À la limite, c'est peut-être Galatea la plus proche du personnage, dans la façon de réagir comme ça. Mais non, du coup, je suis hyper flatté quand on me dit putain, on dirait que c'est eux dans la vie.
C'est juste que t'as bien fait ton taf.
Ils ont bien fait leur travail aussi, mais ça veut dire que l'harmonie entre la création du personnage, le choix de l'acteur et après la direction qu'on prend ensemble sur le plateau est la bonne. Donc ça, mais ça veut pas dire que c'est un travail documentaire non plus.
Et l'interview de Jean-Baptiste Durand est à retrouver en intégralité, sinon je vais y arriver, sur le site de Radio Campus Paris. Le premier film dont on vous parle ce soir, c'est Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos, qu'on avait découvert à Cannes, on avait déjà parlé à ce moment-là, mais on en reparle ce soir. Bande annonce.
This is it. Do you think you can do it?
Open your eyes and look clearly at what's going on around you. We might all be in danger.
Donc Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. Laurent, tu l'as découvert à Cannes, tu en as déjà parlé à Cannes, mais tu vas le repitcher ce soir pour nos auditeurs.
Je vais le repitcher, je vais essayer de m'en souvenir. C'est pas très compliqué non plus, faut pas exagérer.
J'allais dire, c'est pas très bon
signe. C'est du coup le dernier film de Yorgos Lanthimos. C'est un triptyque. Plus que vraiment un film à sketch où il y a trois petites histoires qui parlent toutes de j'ai envie de dire de la toxicité de la gentillesse en fait un peu c'est assez difficile d'expliquer de quoi ça parle exactement parce que c'est assez obscur et assez méchant mais en gros on a voilà trois petites scénettes avec jouées toujours par les trois mêmes acteurs à savoir Emma Stone
Willem Dafoe
et l'autre qui a gagné le prix
Jesse Plemons,
voilà, désolé, je suis nul à
prix masculin à Cannes, c'est
tout à fait. Moi je connais pas très bien le cinéma de Yorgos Lanthimos, les deux seuls que j'ai vus c'est celui-là et le précédent,
mais notre spécialiste Félix n'a pas eu le temps de voir le film.
Précédent dont j'avais dit du bien d'ailleurs cette antenne il me semble, ou alors je l'ai vu peut-être après, je ne sais plus.
On a dit beaucoup de bien
de Poor Things. Kinds of Kindness, c'est un film je crois peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus de petit con, j'ai envie de dire. Enfin, c'est très méchant de dire ça, mais parce que je trouve que c'est pas un mauvais film, mais c'est vraiment un film qui cherche à être volontairement méchant, volontairement cynique, volontairement dur, volontairement un peu violent, à essayer de repousser en fait comme ça quelques limites un peu et d'attentes du spectateur, avec je dirais plus ou moins de bonheur et avec certains moments qui sont à hurler de rire, c'est-à-dire vraiment extrêmement réussi. Il y a un peu à boire et à manger, je trouve, dans ce film, et c'est ce qui fait que son côté assez assez intéressant et assez plaisant, parce que je trouve qu'il y a vraiment des moments qui marchent très très bien et qui sont vraiment vraiment très cool, et d'autres qui au contraire sont un peu try-hard. En fait, c'est, d'une manière générale, je trouve que c'est un peu le gros reproche que je ferais aux deux films, en tout cas que j'ai vu, du Yorgos Lanthimos, c'est que vraiment il essaye, il racle les fonds de tiroir pour bien nous faire comprendre que c'est un mec un peu indie chelou, un peu trendy, un peu hipster, et que c'est du cinéma pour hipster indie chelou. Et je trouve que c'est un petit peu irritant, parce que c'est pas nécessaire. Parce que en fait, il a des bonnes idées, il a des choses intéressantes à raconter. C'est souvent plutôt bien filmé. Il y a des trucs, il y a des vraies bonnes phases et des vrais bons fondamentaux que je trouve on retrouve dans celui-là, même si c'est un film un peu à sketch et que moi globalement en général j'aime pas ça. Mais en fait, à chaque fois, il y a toujours ce côté un peu genre clin d'œil sur son intention que je trouve un peu irritante, et ça n'y coupe pas. Ce qui est à mon avis dommage, parce que je pense que ça le dessert. Voilà ce que je pense du film.
Voilà ce que tu penses du film. Manon, je crois que t'as pas été très convaincue, toi, par ce Kind of Kindness.
Non, moi pour le coup, je crois que j'ai vu tous les films de Lanthimos, je les ai tous aimés, en tout cas tous ceux que j'ai vus. Et celui-là, c'est vraiment de loin celui que j'ai le moins aimé. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a raconté le moins de choses, que j'ai le moins compris. Il est toujours dans l'absurde, dans l'exagération, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un fond et un message. Et là, moi, j'ai trouvé ça assez vain. Le principe de nous proposer une espèce de variation comme ça en triptyque sur la pseudo-bienveillance et puis surtout toutes ces dérives sous forme d'anthologie avec les mêmes acteurs comme ça, moi sur le papier j'étais plutôt franchement j'achète, mais je trouve que le résultat est vraiment assez opaque. Il est vraiment dans ses sujets de prédilection, dans l'observation du pire de l'humain, dans les dérives de la soumission à l'extrême et tout, mais je trouve que c'est là qu'il est le moins pertinent, parce que son propos devient presque illisible tellement il pousse à fond les curseurs de la fable, de la farce et tout, que en fait il y a presque, je trouve, plus rien de tangible dans le film et dans ce qu'il raconte. Il essaie de nous raconter comment la gentillesse peut mener à la naïveté, elle peut mener à la soumission, elle peut mener à la manipulation et à plein de formes d'abus. Et je sais que le titre est à prendre au millième degré et qu'il n'a pas du tout l'intention de nous parler de gentillesse, mais en fait, les trois tableaux, c'est quand même le premier, un mec qui se fait dicter à peu près toute sa vie personnelle, professionnelle, sexuelle par un mec totalement fou. Le deuxième, c'est une femme qui finit par s'arracher le foie pour nourrir son mari. Et le troisième, c'est une meuf qui va abandonner son mari et son enfant pour se soumettre à un gourou et boire ses larmes, voilà, globalement. Et en fait, je trouve que on est tellement loin du sujet de la gentillesse qu'en fait, on n'en parle même plus et qu'on devient presque hors sujet. Je trouve que dans ce film, il s'est débarrassé un peu de tous ces effets de style que les gens trouvent parfois lourds. Moi, ça ne me dérange pas. Et en fait, je trouve que étonnamment, c'est là qu'il n'a jamais été aussi peu subtil, je trouve, que dans ce film-là. Tout le film est quand même très froid, très cynique, tu l'as dit, Laurent. Et du coup, moi, ça fait que j'ai eu vraiment aucune espèce d'empathie pour aucun des personnages, alors qu'il y en a qui sont vraiment des... Il y a des bourreaux, mais il y a vraiment des martyrs dans le film. Le premier tableau, je l'ai trouvé pas mal, enfin en tout cas c'est celui que j'ai préféré, parce que ça parle de sujets assez contemporains sur les rapports de pouvoir au travail et toute cette toxicité là, mais après le reste, puis ça dure quand même 2h45, c'est pas trois tableaux quoi, c'est quasiment trois films dans un film, donc
c'est moyen métrage.
Trois moyens métrages, ouais. Franchement c'est très long. Le duo par contre est super, Emma Stone, Jesse Plemons, c'est cool, et je suis trop contente de voir Jesse Plemons qui intègre le Lanthimos Cinematic Universe, parce que je trouve qu'il a ce côté très très presque un peu glauque qui va bien au cinéma de Lanthimos. Mais voilà, Kinds of Kindness, moi je suis un peu restant dehors.
Je précise quand même que Yuri, on a dit beaucoup de bien au micro, enfin notre micro, et que la chronique est à retrouver sur notre page Instagram.
Oui, c'est vrai que vous avez pas de bol, on est quand même plutôt les deux qui...
Vous êtes les deux qui n'avaient pas aimé, moi j'ai plutôt bien aimé le film, donc je vais quand même vous encourager à le découvrir, mais voilà, avec nos deux agents du mal au micro ce soir. Rita, tu es la seule d'entre nous à avoir pu découvrir en avance Le Comte de Monte Cristo, qui sort seulement vendredi, donc voilà, c'est une petite chronique en avance après la bande-annonce.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser.
Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès.
Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres.
Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent !
Rita, il est de Sans le Monte Cristo. Après deux films, deux volets des Mousquetaires, voilà maintenant le Comte de Monte Cristo dans ce nouveau cinématique univers.
Le Cédou cinématique univers, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, du nom du producteur.
Alors moi, je pensais plutôt le Dumas cinématique
univers. Oui, aussi univers, Dumas, enfin, en tout cas de l'impulsion de ce producteur du coup de chez Gaumont qui a envie d'aller chercher dans le patrimoine français pour créer des grands blockbusters. Effectivement, ça suit cette lignée-là. Bon, Monte Cristo, on sait à peu près ce que c'est, mais pour le rappel quand même, c'est Edmond Dantès, un homme qui est très valeureux sous toutes les coutures a priori, qui va se faire piéger dans une espèce de complot et il va se retrouver à aller en prison pendant 14 ans, il me semble, et à sa sortie, il va vouloir se venger des hommes qui ont fait qu'il s'est retrouvé en prison. Donc une histoire de vengeance, une des histoires les plus iconiques du roman et puis du récit français de manière générale. On sait ce qui va se passer dans ce film, ce qui est, je trouve, un énorme défi. Je pense qu'on sait encore plus ce qui va se passer que dans les Trois Mousquetaires, en fait. Parce que les Trois Mousquetaires, il y a plusieurs aventures. Là, on sait que c'est de la vengeance d'un mec qui va aller en prison longtemps. Et je trouve que c'est un énorme pari d'aller vers un film où tout le monde sait très bien ce qui va se passer. Parce qu'il faut alors nous tenir en haleine quand même, surtout sur 3 heures vu le projet. Et faire en sorte qu'on soit diverti quoi qu'il arrive. Alors, en l'occurrence, la comparaison est un peu obligée avec les Trois Mousquetaires que tu viens de mentionner, puisque c'est la même équipe créative à peu près, sauf que là, les scénaristes des Trois Mousquetaires, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, sont ici scénaristes et réalisateurs du film. Et on a Pierre Niney, en fait, c'était le seul acteur français de moins de 50 ans qui n'était pas dans les Trois Mousquetaires, globalement. Donc, cette fois-ci, c'est lui, Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. La comparaison est obligée et est très facile parce que les Trois Mousquetaires, c'est des kilomètres derrière le comte de Monte Cristo, à mes yeux. C'est un film infiniment plus intéressant, sous toutes les coutures, et même si on regarde juste d'un point de vue grand public, grand spectacle, en fait j'ai passé 3 heures devant Monte Cristo, je me suis beaucoup moins ennuyée, j'ai passé un trop bon moment. Quand je compare avec Milady, où j'ai cru mourir d'ennui 25 fois et en plus c'était moche. Bon, alors cette difficulté scénaristique du fait qu'on sache déjà ce qui va se passer est, je trouve, décuplée par le fait que c'est une histoire hyper complexe en fait. Et Laurent nous en parlait hors micro, mais le Comte de Monte Cristo, c'est très long, c'est feuilletonnant. Il y a plein de moments où d'égarements où en fait, qui ne servent pas l'avancement de l'histoire, mais simplement qui permettent de construire l'univers et de mieux comprendre Edmond Dantès. Et ça aurait été facile de le faire en série, je pense, plus. Mais là, ils réussissent un truc merveilleux qui est que malgré la pléthore de personnages, de sous-intrigues et de pourquoi est-ce que chacun fait ce qu'il fait, malgré ça, ils réussissent à faire en sorte qu'au bout de 30 minutes et encore plus au bout d'une heure, on sait exactement et précisément qu'est-ce que chaque personnage cherche. Et je trouve que c'est la plus grande réussite d'un film grand public, c'est que tout le monde à la fin, il n'y a pas de moment où on pose la question, attends, lui déjà, c'est quoi ses motivations, pourquoi il est fâché avec Edmond Dantès, pourquoi Edmond Dantès veut se venger, on comprend. Franchement, tout est clair tout du long et j'ai adoré voir ça parce que les personnages rancuniers au stade d'Edmond Dantès, qui est quand même le mec rancunier, le OG, le premier, moi ça me rassure, ça me fait relativiser de ma personne parce que je suis très rancunière et je me dis ça va, je suis pas Edmond Dantès non plus. Et j'adore ce personnage. J'ai pas lu le Comte de Monte Cristo, mais j'ai trouvé cette adaptation, enfin du coup je peux pas juger l'adaptation, mais j'ai trouvé le film vraiment génial sur ce côté de la vengeance. C'est un film épique, vraiment la définition du sens épique, les paysages, les plans en large sur tout ce qu'ils veulent nous montrer. Donc il y a l'argent à l'écran, voilà cette expression qu'on reprend souvent parce que ça se passe dans, du coup plutôt vers Marseille. Il y a beaucoup d'eau et je le dis dans le sens où vraiment on voit l'eau à l'écran, on voit la grandeur, c'est pas du tout dans les forêts en plan serré comme dans les Trois Mousquetaires. Donc entre la BO, la photographie, les costumes vraiment grandioses, mais encore une fois il y a un travail beaucoup plus intéressant que sur les Trois Mousquetaires. C'est dommage de parler du film qu'en comparaison, j'en ai conscience, mais ça appelle la comparaison. Et surtout j'aimerais noter le jeu de la jeune génération, donc Anna Maria Bartholomei, Julien de Saint-Jean et Vassily Schneider. Oui, je dis du bien d'une fratrie de Nepo Babies, c'est la première fois. Je les ai trouvés géniaux, tous ces trois acteurs, vraiment incroyables à l'écran. Ça m'a fait beaucoup plaisir de les voir. Il y a un mini ventre mou au milieu et je suis pas totalement convaincue de Pierre Niney qui essaie de sortir de son rôle de gentil pour la première fois, j'ai l'impression. Mais il est en bonne voie pour ça. Mais j'ai honnêtement passé 3 heures sympas et je pense que j'irai le revoir à tête reposée, pas dans l'effervescence de Cannes, pour me refaire une idée, mais j'ai vraiment trouvé ce film good vibes, quoi. Bon divertissement.
Ah, dis donc, si le Comte de Monte Cristo est good vibes, tout arrive. Oui, on vous encourage à découvrir donc cette super production française qui sort vendredi en salle. Et on va parler maintenant d'une super production américaine. C'est Sans un bruit, jour 1, le préquel de la franchise du même titre.
You can't have a cat in here.
It's a service cat.
Félix, finalement, le pitch de Sans un bruit, jour 1, c'est quand il y avait encore du bruit.
Oui.
J'ai toujours vraiment les meilleures phrases d'accroche. Tout à fait, c'est vrai, c'est ça. C'est donc effectivement le troisième film de ce qui est en train de devenir une franchise sans un bruit, jour 1. Jour 1, pourquoi ? Parce qu'on va suivre Lupita Nyong'o qui a le cancer et qui va.
C'est une blague pour rigoler. Oui, personne ne s'attendait à cette, ouais, à cette suite de phrase.
Et qui part en fait du coup en ville à New York, donc avec un groupe de gens qui ont aussi le cancer et des infirmiers pour voir un spectacle de marionnettes. On dirait vraiment une blague au début. Je vous assure que c'est le pitch du film.
Et il se trouve que c'est un film comique.
Et il se trouve qu'il y a des aliens qui débarquent et donc c'est des créatures qui sont aveugles et qui ont la capacité du coup d'avoir une ouïe très développée, de tuer les gens qui font du bruit. Comme les deux premier en fait, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce film ? C'est nul. Je vais commencer déjà par sauver vite fait les débuts d'idées que je trouvais intéressants et qui ne sont pas exploitées. Voilà, on en est là.
Cancer, les marionnettes.
J'y viens. Je trouve ça assez malin d'avoir fait justement un préquel et pas une énième suite pour essayer de voir le début de la menace. Après, malheureusement, est-ce qu'on voit le début de la menace ? Vraiment pas du tout. Je trouve ça pas trop mal de placer l'action dans New York alors que les deux premiers se situent plutôt en campagne, en tout cas dans la forêt. Mais bon, est-ce qu'il l'utilise ? Surprise, on va voir. Et je trouve ça, en fait, pour le coup, pas mal d'avoir un personnage qui a le cancer, parce que du coup, on évite l'énième personnage qui essaye de rejoindre, on va dire, des secours, enfin, l'espèce de point d'évacuation, parce qu'elle, elle sait qu'elle est complètement condamnée, et du coup, c'est plus une espèce d'errance, en fait, dans les rues de New York pour, quelque part, retrouver la joie de vivre. voilà. Alors, après, le problème de tout ça, c'est qu'en fait, et je vais commencer par là, le personnage, justement, principal et même tous les autres personnages sont assez incompréhensibles, c'est-à-dire que je trouve ça théoriquement intéressant d'avoir fait ça. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas dans Allemagne des Zéros, on n'est pas dans Les Ailes du Désir. Du coup, le côté déambulation un peu poétique dans une ville en ruine, on l'a pas du tout parce que ça reste un film complètement débile avec des monstres. Et quand le réalisateur essaye de faire ce genre de moment à coup de musique, machin truc, c'est hyper malaisant vraiment. Du coup, en fait, on s'ennuie très très rapidement. On n'a pas du tout d'empathie pour les personnages. Le seul personnage qui nous provoque d'empathie, c'est un chat, et parce qu'il est mignon, voilà, on en est là quand même, malheureusement. Après, justement, concernant ce que je disais sur New York, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout cette nouvelle arène. C'est-à-dire que très rapidement, on retombe un peu dans les mêmes truc un peu cliché en fait des deux premiers films pour faire peur, à savoir très vite dès que tu marches sur un truc qui fait du bruit, genre une plaque de verre, bah du coup les créatures t'arrivent dessus. Et c'est dommage parce que c'était déjà des ressorts justement horrifiques des premiers films, et ils utilisent très très peu, je trouve, justement ce nouvel environnement. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment vraiment dommage, je trouve. Et puis même de manière générale, en fait, je trouve que le réalisateur a pas du tout révisé ses classiques pour faire de la mise en scène de suspense. Enfin, c'est-à-dire que John Krasinski, c'est pas du tout un grand réal, mais au moins il a vu des Hitchcock et il sait comment gérer du suspense et faire peur. Là, vraiment, pas du tout.
C'est Michael Sarnowski, donc, qui reprend la franchise.
Voilà, je le cite pas parce qu'on s'en fout et que ce mec va disparaître après ce film-là. Mais
c'est un Yes Man quelconque. Voilà.
Oui, mais citons son nom. Écoutez, bravo, vous êtes quand même particulièrement désagréable.
Ouais, complètement. J'efface de la réalité. Non, mais en fait, le problème, c'est que du coup, je trouve la 80%, 90% de l'action illisible. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Et les 10% restants, soit c'est des jumpscares hyper cheap, et vous savez ce que je pense des jumpscares, parce que j'ai critiqué quand même sur ces 6 ans d'émission maintenant beaucoup de films d'horreur. Soit, en fait, c'est des espèces de plans extrêmement démonstratifs, courte focale, on voit espèces d'invasion alien dans des bâtiments, mais qui sont des plans beaucoup plus spectaculaires et que réellement des plans qui te procure une émotion autre que juste le waouh, c'est, y a de l'argent ou il y a des effets spéciaux ou je ne sais quoi. Et puis en fait, de manière générale, je crois qu'en fait ce sans-abri, enfin cette espèce de franchise maintenant n'a pas de sens, parce que déjà de base c'était pas des films qui étaient très intéressants, et surtout je trouve les créatures pas suffisamment tordues et intéressantes et exploitées pour réellement nécessiter 3 films ou plus. Parce qu'en fait, je veux dire, le principe de faire du bruit, d'avoir des créatures qui te sautent dessus, c'est tous les films d'horreur du monde. Donc en fait, non mais c'est vrai. Donc du coup, ok, eux, ils ont une ouïe particulièrement développée, mais alors pourquoi, quand ils sont à 5 cm des visages des comédiens, ils n'entendent pas leur respiration ou leur battement du cœur? Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y avait plein de trucs à essayer de chercher pour potentiellement essayer de caractériser un peu plus ces créatures, et là, c'est pas le cas. Donc vraiment, voilà, je vous encourage pas du tout à aller voir ce film. Peut-être potentiellement envoyer les deux premiers et télécharger illégalement ce film. Oui, je dis ça, mais c'est une compagnie américaine, donc c'est pas grave. Et voyez-le un dimanche soir sur votre télé, quoi.
Laurent, tu n'avais pas vu, je crois, Les Sans un bruit, donc
si, j'ai vu le premier.
Ah, t'as vu le premier.
Mais j'ai pas vu le second. Bah écoute, pas
que
d'idée,
rajouter.
Pas d'idée, pas d'envie, pas de travail, quoi. Tu vois, globalement, hein. on va commencer comme ça.
Je
trouve ça pire en fait que ce que dit Félix, c'est-à-dire que moi je trouve que vraiment rien n'est fait avec une vraie volonté de réussir à faire un truc bien, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'en branle vraiment. Il y a que, je pense, les deux acteurs qui ont un peu envie d'être là encore, enfin, en tout cas qui donnent quelque chose.
Un peu trop même d'ailleurs.
Parfois un peu trop, mais bon, la réalisation c'est globalement zéro. Il y a des scènes, franchement, on comprend rien à ce qui se passe parce que le mec fait n'importe quoi. Le scénario n'a strictement aucun sens. Les priorités des personnages sont complètement débiles. Enfin, tout ça est pas. Il y a rien de construit. Par exemple, en fait, le truc qui me donne, par exemple, qui je trouve un des exemples les plus absurdes de ça, c'est que le personnage masculin qui est censé être un étudiant en droit, il fait du droit. Du coup, il est en costume. La seule fois de ma vie où j'ai vu un étudiant en droit en costume, je pense qu'il s'est fait taper dessus, tu vois. Donc en fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Personne, en fait, s'est posé la question de rien du tout. Tout le monde s'en cogne. Il y a des moments où le chat, il apparaît, il disparaît parce que c'est pratique, parce qu'on va pas non plus l'avoir tout le temps dans les pattes, c'est chiant, mais il réapparaît quand même parce que c'est plus simple et qu'on en a besoin pour faire une scène rigolote. Rigolote et encore. Je pense que il y a presque des velléités, je pense, d'humour dans ce film, mais sauf qu'en fait, c'est vraiment pas drôle du tout. C'est raté et c'est et en fait je pense qu'il y a une espèce de volonté de prendre un peu le truc à rebours en disant en fait on va faire l'histoire, c'est genre sans un bruit, mais sauf que c'est l'histoire d'une meuf qui allait manger une pizza, parce qu'en fait c'est littéralement ça l'histoire. Elle veut aller manger une part de pizza dans un New York en ruine avec plus personne.
C'est une dernière volonté qui est tout à fait louable.
Il y a aucun moment où ça a du sens, mais peu importe. Et en fait un peu tout est comme ça, c'est-à-dire que personne s'est posé la question pour essayer de faire un truc vaguement cohérent et un tout petit peu bien fait et intéressant. Ça pue la tristesse à des kilomètres, vraiment. Je trouve ça assez honteux et un peu incroyable qu'on ose proposer ça sur une franchise qui n'en méritait pas tant et qui, je suis assez d'accord avec toi en fait, méritait pas forcément le statut de franchise. Ça aurait dû sortir en DTV vraiment à l'arrache, que tu regardes un peu bourré avec des potes parce que t'as rien d'autre à foutre, mais c'est vraiment vraiment nul, enfin. Y a rien,
écoutez,
quoi.
J'allais dire beaucoup de bruit pour rien. Fuyez, mais pas dans la direction de ce film. On oublie tout de suite ce Sans un bruit, jour 1, qui restera le dernier. Et on va maintenant vous parler des Pistolets en plastique, le nouveau film de Jean-Christophe Meurice qu'on a déjà reçu à l'antenne. Il est le chef des Chiens de Navarre.
Mes chers amis, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer et récompenser le travail de Théa Blanchard et Christine Valderel dans leur mission en charge de l'affaire Paul Bernardin, qui mettait à jour 4 cadavres, ceux de sa femme et de ses 3 enfants, et de la disparition de
Bernardin, votre voisin.
Ah oui, monsieur Bernardin, oui.
C'est lui qui
oui.
a tué tout.
Roman, les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice, c'est donc un film sur un faux Xavier Dupont de Ligonnès, on peut résumer ça comme ça ?
Oui, complètement. Qui part un peu du point de vue en fait des deux enquêtrices qui sont un peu amatrices puisqu'elles font ça sur un blog et donc elles traquent un certain Paul Bernardin, alias effectivement du coup toute l'affaire qu'on connaît. Cette enquête va mélanger un peu d'autres personnages autour de ça puisque il y a un homme innocent qui va être arrêté à Copenhague et qui est soupçonné d'être le tueur, mais un peu sur un malentendu puisqu'en vérité il ne ressemble pas du tout physiquement au tueur. Et donc,
tu veux dire que Xavier Dupont de Ligonnès les innocents.
Oui, exactement, peut-être. T'as vraiment, oui, voilà, il y a un kink là. Bon, bref, moi je pense que ce film est vraiment la confirmation qu'il faut que j'arrête d'aller voir les films de Jean-Christophe Meurice parce que tout simplement je n'en aime aucun et que celui-ci est vraiment probablement le plus triste et le plus paresseux, le plus grotesque de tous ceux que j'ai vus. J'ai aussi vu une pièce de théâtre de cette personne que j'ai détestée aussi. En fait, je crache surtout au passage. Non, mais en fait, je trouve ça dommage, c'est-à-dire que, parce que le premier tiers du film est assez amusant quand même, c'est-à-dire qu'il est plutôt bien pensé, il y a une espèce de présentation de tous les personnages, puisqu'il y a une sorte de film choral qui se passe et on a un espèce de jeu avec le film policier qui s'instaure dès l'ouverture, qui est assez amusante avec notamment Jonathan Cohen, et il arrive à jouer, je trouve, avec les codes du film policier et à s'amuser avec tous ces clichés là et ça marche plutôt bien, je trouve, les 15 premières minutes. Et en fait, soudain, le film se déroule et on s'aperçoit relativement vite que il n'y a rien d'autre et qu'en fait c'est une espèce d'énorme coquille vide. Que voilà, c'est un scénariste réalisateur qui s'est dit chouette, je vais écrire plein de gags et qui ne pense jamais à faire un film. C'est vraiment un film pour ses acteurs, c'est-à-dire que à la rigueur eux s'amusent en revanche parce qu'ils ont des scènes complètement absurdes, rocambolesques, burlesques parfois à jouer. Et donc peut-être les acteurs s'amusent eux, mais pour le spectateur c'est d'un ennui profond et c'est surtout très irritant parce que c'est d'une prétention qui est vraiment très désagréable à regarder. Le film cherche à provoquer en permanence avec une espèce de succession de sketchs parce que vraiment ça n'est que ça en plus de mauvais goût. Il y a notamment pour citer deux trois trucs, un voisin qui a le visage déformé, qui a la maladie d'Elephant Man, qui demande à sa fille de retirer son masque de clown pour pas faire peur aux enquêtrices, ce genre de choses. Une voisine qui est en roue libre, qui est complètement raciste, homophobe, enfin c'est une espèce de et qui n'est pas drôle du tout, c'est une provocation gratuite qui ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'elle tourne en rond et parce qu'elle est complètement creuse et surtout qu'elle le met complètement de côté, du coup une forme de narration quelconque, une forme de mise en scène, parce que vraiment c'est le dernier point sur lequel je vais appuyer ce soir, c'est qu'il y a une espèce de mise en scène qui je pense est encore plus flemmarde et plus paresseuse que son scénario, ce que je ne pensais pas possible, avec des plans débulés pour une raison complètement obscure, des décors à fond blanc qui sont ignobles pour faire comprendre qu'on est à Copenhague et que du coup c'est minimaliste parce que c'est scandinave. On sent que le réalisateur ne réfléchit jamais à sa caméra, à comment l'utiliser pour servir le film, à comment l'utiliser pour servir une forme de comédie, parce que c'est quand même tout le voilà l'espèce de volonté du film et d'intention. Voilà, c'est vraiment terrible parce que du coup dès qu'il y a une scène qui arrive à peut-être à nous arracher un sourire, ça retombe tout de suite par cette espèce d'excès et de prétention de vouloir dire regardez-moi, je vais encore plus loin et je vais faire un sketch extraordinairement drôle, et du coup ça retombe, ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est le triste sort d'un chroniqueur de devoir finir Radio Campus Paris par genre l'épistolaire en plastique.
J'allais dire on passe une bonne soirée pour cette dernière. Alban, est-ce que tu es aussi dur que Roman sur ses pistolets en plastique?
Bah avec les 20 secondes qui me restent, ouais, je vais dire la même chose.
Mais t'as pas 20 secondes, mais tu... Mais oh. Alors, un peu d'ordre dans ce...
Non, effectivement, c'est dur de...
Il n'y en a jamais eu, mais ce soir...
C'est... Effectivement, ouais, j'ai pas aimé le film. Hein? Non, mais c'est juste que c'est le bordel autour de moi. Je peux pas surenchérir ce qu'a dit Roman. Effectivement, il n'y a rien. En fait, c'est même pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est aussi énervant, quoi. C'est un film qui est malhonnête, c'est un film qui est méchant, c'est un film qui a aucune utilité si ce n'est de provoquer gratuitement, tout en mettant un peu ça et là des sortes de diatribes un peu politiques où tu te dis mais enfin un enfant de 10 ans aurait pu écrire ça mieux, quoi. Et en fait je me dis soit c'est vraiment le mec qui était foncedé, il a écrit son scénario, il s'est dit on va faire une grosse connerie et ça a marché, soit encore pire il s'est dit ok on va essayer d'être subversif et de rajouter un discours politique dans le film, et là tu te dis mais c'est d'une tristesse. Et si c'est ça en fait les gens qui représentent une certaine forme de subversion dans l'art ou dans le cinéma, mais c'est enfin honnêtement c'est horrible, quoi. Il y a rien à en tirer de ce film à part peut-être l'acteur qui joue qui est censé jouer celui qu'on prend pour Xavier Dupont de Ligonnès, Gaëtan Pau, je crois qu'il s'appelle, qu'on a vu dans les films de Jérôme Bonnel, qui était vraiment plutôt bon, et il lui arrive plein de misère, et je trouve qu'il joue plutôt ça bien. Et je trouve qu'en plus, ça cite plein de trucs. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Dickeneck, ou ça m'a fait penser à ce genre de film.
J'entends partout que les Chiens de Navarre, c'est la suite des Monty Python.
Oui, bah, c'est ce que dit Eric Neuhoff, par exemple.
Si c'est Eric Neuhoff qui le dit.
Mais
il
vraiment,
doit avoir
c'est vraiment catastrophique. Et je trouve que dans la provocation, il y a quand même des. Enfin. Voilà, il y a des choses où si tu les dis, il faut quand même pouvoir se le permettre et avoir un discours cohérent. Quand t'as une personnage qui fait plein d'insultes racistes bien débiles et qui finit par dire oui, mais on sait, Hitler, il aimait bien les animaux, et ça, on le dit pas assez. Tu te dis, mais comment on peut dire une connerie comme ça, tu vois?
On dirait une blague de Laurent à 6h du matin, quoi.
Ça, il était végétarien, mais on s'en fout, c'était quand même...
On dirait l'état un peu de la France ces derniers jours, hein, globalement.
C'est pas une bonne vanne, et c'est pas... edgy comme tu penses l'être en fait.
Non, mais c'est débile. Ou quand il ose quand même à la fin du film, parce que oui, on va spoiler, refaire la scène de Laurent Stoker, Xavier Dupont de Ligonnès, qui tue sa femme, ses trois enfants avec un fusil.
Ouais, ça c'est ignoble.
C'est ignoble. Enfin, franchement, c'est obscène.
Parce que du coup, c'est vraiment obscène. Tu vois toute cette scène. Moi, je pense que j'ai fermé les yeux parce que je n'avais pas envie. Mais même pas tant. J'avais pas peur du glauque ou quoi. Je me suis juste dit, je ne veux pas voir cette scène. C'est-à-dire qu'elle ne, je, il peut pas être allé jusque-là. C'est pas possible d'être à côté de la plaque comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est de la promotion qui vise jamais jamais juste, quoi, de la provocation qui vise jamais juste. Et je trouve que c'est même pas dommage, c'est rageant, quoi. C'est vraiment rageant. Ça fout en rogne un genre de film.
Et en plus, je ne comprends toujours pas le titre de ce film. Genre, je comprends pas le plastique.
Non, j'ai pas compris non plus.
Voilà, je sais pas, parce que j'imagine que quitte à tirer sur le réalisateur, on va utiliser une vraie arme.
Voilà, rien à en tirer de cette
merde.
De
deux mauvais films de suite, mais on reste dans les armes à feu, puisque le film suivant, c'est Le Moine et le Fusil de. Alors, est-ce que je m'engage à prononcer ce nom de Pao Shoning Dorji? C'est un film bhoutanais. On écoute la bande-annonce.
In other international news, Bhutan has just become the world's youngest democracy, with the kingdom's beloved 51-year-old monarch abdicating in favor of democratic reforms.
Alban, c'est encore toi qui nous parle de Le Moine et le Fusil, le premier et le dernier film bhoutanais d'Externu.
Ouais, on sait pas, peut-être.
Est-ce que c'est la boutade du soir?
Oh la vache.
Un bout en train.
Ça colle, putain, les gars. Waouh.
Bon, alors, en tout cas, c'est moi qui vais me coller à tous les noms de famille, donc on est parti. Donc, c'est le film de Pao Shoning Dorji. C'est son deuxième film, deuxième long métrage. Le premier était sorti en 2022, qui s'appelait L'école au bout du monde, et qui était sélectionné dans le meilleur film étranger aux Oscars.
Tout à fait.
Et là, il revient avec ce film qui raconte l'histoire, donc au Bhoutan, d'élections blanches, en fait, parce que c'est une royauté, et du coup, là, le roi a abdiqué, a préféré faire du Bhoutan une démocratie. Et pour entraîner son peuple à la démocratie et aux élections, ils organisent des élections blanches pour qu'ils comprennent un peu le mécanisme. Et il y a des scènes vraiment hilarantes où on leur apprend limite à manifester alors qu'eux, ils en ont rien à foutre, et que tu comprends qu'ils étaient très bien avec le roi et qu'ils comprennent pas pourquoi on leur impose ça. Et il y a une phrase qui est assez intelligente dans le film qui dit: oui, mais il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour l'avoir, et eux, ils répondent: bah, si on s'est pas battu, c'est qu'on le voulait pas vraiment. Et je trouve que c'est assez génial c'est un peu le l'idée directrice du film, en fait. Et c'est un film qui est vraiment qui m'a vraiment surpris, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à un film, honnêtement, j'avais vraiment le film de comment s'appelle-t-il,
Damaguchi.
Ouais, Damaguchi en tête. Quand j'ai regardé le dernier film Damaguchi, je me suis dit ça va être à peu près la même chose, où on va pas comprendre grand chose, ça va être très naturaliste, on va avoir des plans longs sur les paysages bhoutanais, etc. Et en fait, il y a de ça, il y a cette idée de traverser le pays par le regard, de regarder comment ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils sont entre eux socialement, etc. Mais c'est pas l'histoire du tout du film. On a une histoire qui est très bien écrite. Je trouve qu'un scénario qui est très bien ficelé, avec des personnages qui se trouvent, c'est un peu écrit en forme de fable aussi, parce qu'il y a un Américain qui vient pour aller donner des armes à un moine bhoutanais. Enfin, c'est complètement délirant. Enfin, en vrai, c'est très très drôle, parce que c'est aussi un peu une comédie. Et je trouve que le film est vraiment vraiment intéressant. Et ce qui m'a vraiment surpris au film, alors que c'est pas du tout un truc que je regarde notamment, ou en tout cas que je remarque, c'est aussi le. Je trouvais que le montage était vraiment maîtrisé. Il y avait quelque chose de très dynamique, en fait, dans le film. À chaque fois, on change de plan. C'est des plans qui veulent dire quelque chose et en même temps qui nous emmènent ailleurs, tout en respectant l'histoire et le scénario du film. Et j'ai trouvé ça vraiment, même si j'aime pas du tout ce mot, jubilatoire. Je l'aurais dit une fois, etc. Voilà, j'ai trouvé ça m'a vraiment stimulé, ça m'a tenu en haleine. Et j'ai trouvé que le film avait une sorte de fable politique assez intéressante, en tout cas qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Et l'écueil que je ferais, c'est justement sur ce point-là, à quand même montrer un peuple à la fois tout le temps gentil, tout le temps bienveillant, tout le temps dans le soutien
pas
de l'autre,
complètement,
etc.
Non plus. Bah, pas complètement non.
Il y a la phrase de fin, en fait, qui rejoue tout ça, et j'ai trouvé ça super intelligent de l'amener, qui en fait contrebalance un peu le reste du film. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que c'était très très bienveillant envers son peuple, envers son roi et envers tous les gens qui fréquentent et qui habitent le Bhoutan. Mais voilà, je trouve que faut vraiment y aller, parce que c'est des paysages et c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'il faut soutenir. Donc je vous encourage vivement à aller voir Le Moine et le Fusil.
Laurent.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que ce qu'il me semble, tu n'as pas dit, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que le Bhoutan,
oui,
au début des années 2000,
le Bhoutan est une histoire vraie.
Non, mais le Bhoutan, au début des années 2000, le roi du Bhoutan a abdiqué en faveur de son fils et a voulu créer une monarchie constitutionnelle contre l'avis de son peuple, globalement, qui n'était pas d'accord, enfin pas vraiment d'accord, et qui comprenait pas trop l'intérêt. Et tout le film va mettre ça en scène. Je trouve que c'est un film très malin, en fait, dans la manière dont c'est fait, parce que il arrive, je trouve, à la fois à te choper sur les films, sur les trucs un peu un film qui va parler de film de voyage, un peu sur une culture qu'on connaît mal, avec ce, etc., avec des vrais moments, avec une photo très très léchée, un peu presque documentaire de voyage ou de trucs comme ça, qui, qui est du coup bah très classique, mais qui est vraiment joli. Il y a vraiment des très très beaux moments sur des voilà juste des beaux paysages avec des beaux plans. Et ça en fait il arrive à donc du coup à raconter tout ça, à raconter toute cette espèce de culture qui est quand même très très alien pour nous. Enfin franchement le Bhoutan. Enfin moi j'ai une petite passion Bhoutan perso, mais je suis un peu tout seul. Et globalement il y a des mecs qui s'intéressent un peu à ce qui se passe là-bas, mais en fait c'est quand même vraiment très paumé. Et à la fois, je trouve qu'il t'en donne là-dessus, sans pour autant rentrer dans la carte postale complètement débile, parce qu'il y a des passages, notamment qui se passent à Thimphu, la capitale, où il y a une espèce d'underground un peu chelou, où le mec a des danseuses, tout ça, qui arrive à faire revenir des armes d'Inde et tout. Il y a des trucs un peu comme ça qui sont assez, assez malins, et le tout, en fait, est enrobé dans une espèce de truc de. Un peu de comédie, quoi. Enfin, à la fois un peu de renouvelé de comédie, plein de quiproquos, plein de trucs vraiment un peu absurdes avec des moines, ou en fait, qui vivent dans un système de valeurs vraiment très très différent d'une autre, et avec un humour qui joue vachement sur ce décalage là où en fait on a l'impression que les types font absolument n'importe quoi alors qu'en fait non, c'est juste qu'ils fonctionnent de manière différente et ça donne des situations complètement absurdes et assez drôles. Je trouve que le seul problème du film qui est un peu je trouve dans ce genre de film là assez commun, c'est que c'est une narration c'est une narration qui est assez décousue et qui est un peu flottante parfois, où il y a des moments où ça part sur autre chose et du coup on revient etc, et c'est pas toujours très très bien maîtrisé. C'est peut-être le gros problème je dirais du film, mais en dehors de ça, de manière générale, je trouve que c'est vraiment une belle réussite pour un cinéma qui est genre lilliputien. C'est-à-dire que je sais même pas s'il y a 10 films bhoutanais en fait qui ont jamais été produits.
Apparemment, le réalisateur est un maître qui était moine et qui réalise des films aussi qui sont pas.
Oui, mais il est connu. Mais oui, bien sûr. Non, j'ai oublié le nom qui a fait. Ce mec-là a fait 2-3 films, pas beaucoup plus. Hein.
Je vais pas te demander.
Et en effet, c'était un moine. J'ai oublié. Et je crois que c'est les deux seuls réalisateurs bhoutanais quoi.
Ils continuent de former des gens.
Et honnêtement, ce film est vraiment plutôt une très bonne surprise pour ce que c'est. Et je pousserai les gens à aller le voir au cinéma, franchement.
Eh bien écoutez, on vous encourage donc à découvrir Le Moine et le Fusil, à vous intéresser de plus près au cinéma bhoutanais, puisqu'il existe et qu'il y a assez... Et ben voilà, il y a 6 salles de cinéma au Bhoutan. Il y en a beaucoup plus à Paris pour voir Le Moine et le Fusil. On va maintenant conclure sur une série, c'est Présumé innocent, de David et Kelly. On écoute la bande-annonce. Love isn't what people tell you that it is. In my experience, it's just something that grows... Until one day, you just find yourself needing someone. That's how it was with Carolyn. She woke something up inside me. Présumé innocent, la dernière série donc à l'antenne de Radio Campus Paris. Non, Dexter Nuit. Présumé innocent, Jake Gyllenhaal qui est accusé de meurtre.
Exactement. Tu vas me regarder droit dans les yeux, Elisabeth. J'imagine que c'est pour que je pitche la série, peut-être.
Bah, j'imagine. Donc, c'est adapté. Tu sais toujours pas comment fonctionne l'émission.
C'est une série adaptée d'un film d'Alan J. Palooka, qui est donc le maître de la paranoïa des années 70. C'est un réalisateur que j'aime énormément, mais je n'ai pas vu le film dont la série est adaptée. En fait, c'était Harrison Ford qui jouait le rôle repris ici par Jake Gyllenhaal, d'un procureur qui est très investi dans son travail et qui en fait apprend.
Je l'ai vu a long time ago.
Jake Gyllenhaal ?
Non, le film.
En fait, il est. C'était juste une petite blague, quoi. Alors moi, I wish not, et on y reviendra.
Oui, non, mais moi aussi.
Le truc, c'est que donc c'est l'histoire d'un procureur qui apprend que son ancienne collègue et binôme en fait au travail a été assassinée d'une manière assez glauque, dégueulasse, et qu'elle était enceinte au moment de sa mort. Donc c'est un truc vraiment glauque. On apprend. Donc je spoil pas parce que je pense que ça va être une mini-série de 5-6 épisodes max. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont disponibles sur Apple TV+. Le truc, c'est qu'on apprend très vite qu'il était en relation avec elle alors qu'il est marié avec des enfants. Donc en fait, il trompait sa femme avec cette dame pendant plus d'un an.
Et ça, c'est mal.
Et alors, les raisons pour lesquelles il l'a trompée, visiblement. Il nous explique ça dans des séances de psy où il dit à la psy que c'est parce qu'en fait il n'arrivait pas à faire vivre tous ses fantasmes sexuels avec elle et du coup il allait voir ailleurs. Enfin, vraiment le cliché 101 quoi. Mais disons que c'est en fait un thriller à l'ancienne, dans le sens où c'est un procédural à l'américaine, à la télé, où on a. C'est des choses qu'on voit plus trop aujourd'hui, bizarrement, des épisodes de 40 minutes où on va suivre un procès et on va suivre une enquête criminelle. C'est pas non plus les experts à Miami, mais c'est un peu un truc de télé à l'ancienne. Pour autant, je dis ça, mais enfin, ça reste une mini-série, donc c'est pas non plus un format 23 épisodes de 40 minutes et 5 saisons, quoi.
Il y a un aspect plutôt psychosexuel dans cette série que j'imagine et devait être dans le film aussi parce que c'était la période de tous ces films thrillers un peu érotiques qu'on a pu retrouver à la fin des années 80 et dans les années 90. Il y a cet aspect-là, mais moi, j'ai eu un problème tout de suite, c'est Jake Gyllenhaal. En fait, c'est pas qu'il joue mal, c'est que je déteste tellement cette personnalité.
Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son travail.
Et, en fait, bon, dans son travail, déjà, je trouve qu'il est très bourrin la plupart du temps, mais en fait, sachant son côté personnel un peu bizarre, ou pas très clair sur que sa manière d'exister, j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour ce personnage.
Je préfère un article qui est sorti sur une enquête dans laquelle
on sait pas trop très bien de quoi il est accusé. C'est pas tant, en fait, c'est même pas ça, c'est vraiment que c'est une personne qui m'agace visuellement. En fait, j'ai l'impression que c'est une gonflette de gym, genre quelqu'un qui passe son temps à travailler, à sculpter son corps, et du coup j'ai du mal à voir tout le côté intellectuel et psychologique qu'on est censé comprendre de ce personnage et qui est censé faire l'intérêt de la série. En fait, malgré le côté intéressant de l'écriture, je la trouve très cool et la photo est sympa, et j'ai hâte de voir la suite de quand ça sortira. Pour autant, à cause de lui, je n'arrive pas pour l'instant à rentrer entièrement dans la série. Surtout, j'arrive pas à voir ce qu'elle lui trouve, sa femme, et la femme avec qui il la trompe. J'arrive pas à voir ce qu'elle leur trouve, parce qu'en plus c'est Ruth Negga qui joue sa femme, qui est sublime et qui est hyper intéressante, qui est une actrice formidable, et elle est formidable là aussi. Mais j'ai hâte de voir la suite, donc je finirai sur Radio Campus par une formule consacrée. Pour l'instant, pour moi, présumé innocent, c'est mi-fig, mi-concombre, et j'ai hâte de voir la suite.
Est-ce que le verdict est un peu plus positif sur notre ami Jake Gyllenhaal du côté d'Alban?
Ouais, alors moi je suis plutôt dans l'article que tu cites, donc...
on va parler de sa performance en émission de cinéma.
J'ai vu un peu plus d'épisodes que Rita, et je trouve que ça part dans le bon sens, donc c'est pour ça que je tire un peu plus la série vers le haut. Je trouve que justement, je trouve ça bien qu'ils aient fait de Jake Gyllenhaal une sorte de vraie merde en fait dans la série, tu vois. Genre, non mais vraiment, tout est fait pour qu'on soit pas en empathie avec lui, et plus ça avance, plus c'est... Plus il l'enfonce vraiment à 6 pieds sous terre, et je trouve que du coup ça crée un vrai décalage entre le potentiel meurtre qu'il a fait, en tout cas sa présomption d'innocence, ou quelque part une partie de toi a envie de dire bon, faut le sortir de la merde parce que c'est potentiellement pas lui, mais en même temps c'est vraiment un connard, et je trouve que c'est mieux dans ce sens là que dans le sens inverse, tu vois. Et c'est souvent comme ça notamment dans Anatomie d'un scandale,
du même David Kelly,
du même showrunner, enfin David Kelly. Et là j'ai trouvé ça bien en fait que justement le personnage masculin accusé soit vraiment une sombre merde, alors même qu'il y a quand même plus de doutes pour l'instant qu'il soit vraiment innocent, et j'ai trouvé la série vraiment intéressante pour ça. Il y a aussi des seconds rôles en fait que je trouve tout bonnement géniaux, donc bien sûr Peter Sarsgaard, mais genre Bill Camp qui joue son ancien N+1, on va dire, quoi, et qui a un rôle politique, qui est une sorte d'américain, tu vois, genre vraiment un peu vieux
à l'ancienne, genre un flic donut presque,
exactement un flic donut, ouais. Et j'ai trouvé son rôle complètement génial, et je trouve que ça rajoute un petit peu du peps à la série, même cette opposition politique qu'il y a entre donc Bill Camp et un autre acteur, enfin voilà, je trouve que la série, et j'ai oublié son nom, il semble à Mark Ruffalo, mais c'est pas du tout Mark Ruffalo.
On va parler que ça, un approximatif
Marc Ruffalo. Et voilà, et donc je trouve que c'est plutôt une bonne série. En tout cas, j'étais agréablement surpris parce que j'avais vraiment l'impression d'aller voir Anatomie d'un scandale 2, et finalement ce rôle, enfin c'est un peu déjoué, et effectivement Ruth Negga et porte vraiment en même temps cette famille et porte la série dans toutes les scènes où il retourne à la maison, etc. Je trouve qu'on prend du plaisir à voir cette actrice jouer dans cette série là et je trouve que pour l'instant ça s'annonce vraiment beaucoup mieux que prévu.
Et c'est à découvrir sur Apple.
Sur Apple, ouais,
puisqu'on ne l'a pas dit. Alors, pardon. Oui, c'est fini. Effectivement, j'ai rien préparé pour dire, j'aime pas trop les adieux, pour dire au revoir à Radio Campus Paris. Déjà, je vais commencer par remercier Yon qui a réalisé l'émission ce soir et tous les réalisateurs et réalisatrices qui nous ont aidés à faire l'émission.
Suzanne, Marie-Lou, Colin.
Antonin, il y en a eu plein, Axel évidemment. Dire merci à Radio Campus Paris de nous avoir hébergé pendant près de 10 ans. L'émission va continuer, mais avec des nouveaux chroniqueurs. Nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous sur notre page Instagram pour vous annoncer la suite de nos aventures, a priori en podcast. Maintenant, à 21h, ça va être Désaccordé, et je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que c'était une très belle aventure tous ensemble, et que je vais me croire dans Apollo 13 à la fin et dire et maintenant je rends l'antenne. Bonne soirée.